Vous écoutez Parler Nanterre.
Parler Nanterre.
Parler Nanterre, un podcast pour tous les bons parleurs et ceux qui souhaitent le devenir.
Et si l'éloquence n'était pas morte ? Et si l'éloquence était partout autour de nous, même là où les mots peinent à aller ? Et si l'éloquence n'était pas l'apanage de quelques-uns, mais qu'au contraire, elle était notre bien commun ? Une arme universelle, un moyen sans fin. Et si l'éloquence n'était qu'un moyen, d'ailleurs, serait-elle vraiment le moyen de convaincre? Ne serait-elle pas plutôt le moyen de dire, d'aimer, d'exister? Sur la quête de l'éloquence, nous sommes allés. Obstinés, nous avons cherché pour vous les clés, les secrets de cet art que l'on appelle le bien parler. Notre chemin, nous l'avons commencé à Nanterre, au cœur d'un défi d'éloquence pourtant loin des bancs parlementaires. Sur notre route, nous avons croisé des gens. Des jeunes, des vieux, des petits et des grands, mais aussi des confiants, des timides, des vifs et des lents. Chacun avec leur art de dire, leur rythme, leur vocabulaire, leur prosodie. À chaque fois, nous avons cherché à comprendre. Mais d'où venaient leurs talents ? Quels étaient leurs secrets ? Comment étaient-ils devenus si éloquents ? Leurs réponses ne sont pas divines. Leurs recettes ne fonctionnent pas tout le temps. Mais peut-être que prises ensemble, elles vous permettront à vous aussi de devenir un peu plus éloquents.
Épisode 1. Vous voulez bien parler ? Alors, osez.
Bonjour, je m'appelle Fénor. Comment tu veux présenter cette soirée, cette finale de... Bon, la finale à l'Agora, voilà, parce qu'on est à l'Agora ce soir, donc on pourrait remercier l'Agora, s'il vous plaît, faites du bruit pour l'Agora. Alors ce soir, on est là pour la finale du défi d'éloquence, donc du coup, je suis ravi de vous voir tous ici, en plus il fait beau, vraiment, il y en a, ils sont en pleine forme à ce que je vois. Bon, rentrez, installez-vous, vous en faites pas, faites comme si j'étais pas là, faites comme si je disais rien, installez-vous tranquillement, de toute façon là on est qu'au début de soirée. Là pour l'instant on va commencer par présenter ce projet, donc du coup c'est la deuxième année, il y a eu une édition l'année dernière et on a une des gagnantes qui va faire partie du jury ce soir. Et je voulais vous demander d'applaudir s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai des notes parce qu'en fait moi aussi je viens d'arriver, je connais pas grand monde encore. Je suis en mode Nikos Aliagas, tu vois ce que je veux dire, j'ai plein de notes.
Alors je m'appelle Hassan, j'ai 60 ans, je vis sur Nanterre et je travaille sur la ville de Nanterre, comme actuellement directeur de centre de loisirs, mais ça c'est à l'heure actuelle.
Bonjour à tous, je m'appelle Safa, j'ai 15 ans, j'ai eu l'occasion de participer au concours d'éloquence organisé par la ville de Nanterre.
Bonjour, je m'appelle Onur, j'ai 35 ans, j'habite à Nanterre depuis 2 ans maintenant. Je suis tombé donc sur un article du journal de Nanterre Info concernant ce défi d'éloquence. Donc je me suis un petit peu renseigné, je me suis inscrit et j'ai pu participer avec joie à cet événement et profiter du coaching de ma coach qui était une rappeuse du coup de Nanterre et avec mes camarades on a pu s'amuser avant tout.
J'ai voulu participer au défi d'éloquence parce que la première des raisons, c'était un défi que je me lançais à moi. Savoir si j'étais capable de le faire, si j'étais capable d'être sincère dans mon propos et aussi le sujet qui m'intéressait puisque travaillant sur Nanterre, je savais que l'environnement allait être le cœur du sujet.
Ce concours, j'ai découvert son existence du coup grâce aux affiches qui étaient dans l'abribus et je me suis dit pourquoi pas. Parce que j'ai déjà participé à pas mal de concours d'éloquence. Je dis pas mal, j'avais déjà fait un concours d'éloquence par le passé. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas renouveler cette expérience ? Donc j'arrive le premier jour, je rencontre des gens très gentils, très curieux, aussi curieux que moi. On voulait tous s'exprimer par rapport aux thématiques qui nous avaient été données. Donc le rapport au vivant et le futur. Et je pense déjà que les thématiques, c'était des thématiques très intéressantes à aborder, le rapport au vivant, parce que des fois, l'être humain se perd dans son quotidien et tout, il finit par oublier qui il est réellement. Et le futur, parce que c'est quelque chose qui nous envahit et qui parfois gâche un peu la vie de certaines personnes.
Revenons un peu sur le début de cette aventure. Le début de cette aventure, il s'est passé ici même à l'Agora. On vous a invité les participants, vous étiez à peu près 40. On vous a reçu et vous avez dû faire un premier passage de présentation devant l'Assemblée. Quel est votre souvenir de ce moment ?
Oui, tout à fait. Donc on s'était réunis pour la première fois donc à l'Agora. On était effectivement une quarantaine et l'idée c'était de rencontrer les coachs dans un premier temps et aussi de rencontrer les autres participants. Et effectivement, le premier souvenir c'est qu'il fallait se présenter. Donc ça c'était un petit peu stressant, j'avoue, au début puisque on connaissait ni l'audience, ni les coachs, ni les organisateurs. Et l'idée c'était vraiment de se présenter tout simplement, nom, prénom, ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on pense de l'éloquence. Et voilà, et ce qu'on avait envie de faire. Et donc c'était assez stressant. Alors moi pour ma part, je sais que j'ai laissé un petit peu passer les autres pour les voir défiler, pour voir un petit peu prendre des idées. Et ça m'a permis de passer dans les derniers. Je voyais les profs qui nous regardaient de temps en temps. Mais bon, globalement ça s'est bien passé puisque c'était sous la bienveillance et tout le monde était là pour découvrir le process et les autres participants.
Ah oui, je m'en souviens très bien. Je suis rentré dans l'Agora très très timide parce qu'en réalité je suis une personne plutôt timide, même si dans mon métier, dans ma vie personnelle, je suis réputé pour trop parler. Donc je suis rentré, je suis tombé sur la responsable de l'Agora qui m'a accueilli comme une première fois, parce que c'était une première fois en tant que particulier. J'étais déjà venu dans le cadre de mon métier, mais là je me présentais comme Hassan. Et pour avoir vu la petite annonce par biais de tract et sur les abris d'autobus, je suis rentré de façon très timide, quasiment sur la pointe des pieds, et je comprends même l'instant d'interrogation qu'elle a pu avoir en se demandant « mais que me veut ce monsieur ?» ou « que veut-il » plutôt. Donc j'ai d'abord demandé s'il fallait avoir des idées particulières, s'il fallait avoir un savoir-faire particulier, s'il fallait être dépositaire d'une parole quelconque. Elle m'a rassuré. Donc j'ai décidé de faire ce challenge, et comme je vous le disais un peu au début, c'était un défi à mon égard. Il fallait que je le fasse afin peut-être d'assurer une plus grande confiance en moi.
Alors déjà, je tiens à rectifier, j'avais fait un concours d'éloquence par le passé, donc c'est le concours ambassadeur en herbe, organisé par l'AEFE, donc les agences des écoles françaises à l'étranger. Et donc, il s'agit de joutes oratoires, donc il y a une thématique qui est proposée. Celle qui m'avait été proposée était « Sciences et sociétés, le monde en 2050 ». Et donc, nous étions invités à parler tout d'abord sur le monde en 2050, sur tous ses aspects. S'en suivait ensuite un débat. Il y a un débat qui m'a particulièrement marqué, c'était celui de la place de l'intelligence artificielle dans la société. Donc, est-ce qu'on était pour ou contre la présence d'intelligence artificielle dans la société ? Je me souviens avoir dit pour parce que déjà l'intelligence artificielle c'est un outil très important qui nous sert beaucoup actuellement et qui servira encore plus dans le futur et qui permet d'aider l'humanité à évoluer dans certaines limites.
Et comment décririez-vous le défi d'éloquence de la ville de Nanterre à quelqu'un qui n'en a pas du tout connaissance ?
Alors moi déjà je dirais à cette personne participe. Parce que c'est une expérience vraiment inoubliable. On rencontre des coachs super sympathiques qui vraiment sont là et nous aident à faire de notre mieux. Et c'est une expérience très enrichissante parce que on apprend plein de choses de plein de gens très cultivés, très curieux. C'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie.
Alors moi j'étais là parce que éloquence, ça m'a toujours un petit peu intrigué. J'associais ça à l'art de bien parler, de parler beau. Et donc, j'étais là pour voir un petit peu en quoi ça consistait. J'avoue que j'avais jamais vu, moi, de concours d'éloquence ou d'autres défis d'éloquence. Par contre, j'avais vu un film où ça se passait, alors je me souviens plus du nom du film, mais avec un avocat et dans des cercles un peu plus de juristes. Et c'était assez impressionnant de manier le verbe avec beauté. Et donc ça me donnait envie. Donc lorsque j'ai vu ça moi dans Nanterre Info, je me suis tout de suite dit ah bah tiens, je vais voir ce que c'est, je vais m'y inscrire. Et je regrette pas du tout.
Est-ce que j'avais une idée préconçue? Non. Est-ce que je savais ce que j'allais dire? Non. Cependant, ce qui m'a permis d'arriver à formuler mes textes, et ben, ça a été la bienveillance qui dès le départ dans le groupe dans lequel j'ai pu être était partagée. Comment les gens s'écoutaient, comment les gens se critiquaient, mais tout ça de manière à la fois collective et chacun avait son petit bout de chemin à présenter.
Hassan, vous êtes finaliste et gagnant de ce défi d'éloquence, mais vous êtes aussi le doyen. Est-ce que cette forme peut-être de doute qu'on perçoit dans votre parole émane du fait que vous étiez le doyen de cette assemblée?
Ah, il me semblait qu'il y avait une personne un peu plus âgée que moi, mais...
Je n'ai pas dit la doyenne.
Exact. Donc j'étais bien le doyen de cette assemblée. Et je vous le disais avant que cette émission commence, en tout cas je le partageais avec Lancelot qui se trouve en face de moi, c'est... Je suis plutôt admiratif aujourd'hui de cette capacité qu'ont les jeunes à faire plusieurs choses en même temps, à vouloir aller à la rencontre des gens et d'un mode d'expression. Et dans le cœur de mon métier, ben l'expression est ce qui m'a toujours aussi tenu à cœur, mais celle des enfants, pas forcément la mienne. La mienne, je l'avais éprouvée un peu plus jeune en faisant du théâtre.
Alors moi, depuis ma jeunesse, je suis fasciné par la politique. Donc j'ai regardé un petit peu tous les débats politiques, historiques, hein, entre Chirac et Mitterrand, entre Giscard et Mitterrand, et toutes les pirouettes d'éloquence, ou les façons de réagir, ou les façons d'emporter son auditoire, m'ont toujours fasciné. C'est vrai que c'est un peu l'image que j'ai, moi, de l'éloquence, c'est plus rattaché à la politique. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors j'aime beaucoup, là vous aviez passé dans le générique du podcast le discours de Martin Luther King. Ça c'est vrai que c'est un discours qui m'a beaucoup fasciné aussi lorsque je l'ai écouté. Et la façon d'emporter son auditoire, d'avoir des phrases un peu historiques, cultes, hein, qui restent après dans la tête des concitoyens, c'est assez fascinant. Ouais.
Lors de la première soirée du défi d'éloquence de la ville de Nanterre, vous vous êtes réunis ici même à l'Agora, vous avez été accueillis pour une première présentation qui s'est faite évidemment à l'oral. Vous vous êtes présenté au reste des candidats, vous étiez à peu près 40 et il a fallu faire un choix de coach. Parmi les trois, lequel avez-vous choisi et pourquoi?
Du coup, moi, c'est Ismaël qui m'a coaché. Il y a pas vraiment de raison particulière. Je trouvais juste que, enfin, quand il a commencé à parler de lui et tout, en étant avocat, travaillant au Sénat, au Parlement, je pense que c'est ce qui m'a automatiquement attirée, parce que c'est une carrière que j'envisage plus tard, une carrière de droit, de politique. Et je me suis dit que j'apprendrais beaucoup de choses de ce monsieur, et effectivement.
Alors, mon choix, et je voyais bien que c'était pas forcément celui de tout à chacun, s'est porté très très vite vers Déter, qui est son nom de scène, pardon, et Sofiane, si on préfère, tout simplement parce que rappeur, il se rapprochait un peu plus de mon identité personnelle. Non pas que je rappe, non pas que j'étais à des concerts de rap, mais oui, j'ai grandi dans une cité, dans l'Essonne. Je viens d'un milieu ouvrier et ma mère était une vendeuse en bijouterie. Donc il y a peut-être un complexe d'infériorité, peut-être une projection d'identité, mais c'est la personne qui m'avait... je me suis dit que c'était avec lui qu'il fallait que je sois accompagné.
Alors c'était un choix très 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 difficile, un choix cornélien je dirais. Donc il y avait trois coachs qu'on ne connaissait pas, hein, qui se sont présentés à tour de rôle. Mon choix s'est porté vers Billy Breloc, qui est une rappeuse de Nanterre, Anna Lucia de son vrai prénom, et qui nous a parlé un petit peu de la façon dont elle voyait l'éloquence, de la façon dont elle voyait le texte, de la façon dont elle voyait le rythme surtout, puisqu'elle était rappeuse. Et ça m'a tout de suite intrigué, puisque c'est un univers que j'avoue, je ne connais pas beaucoup, le rap. Et donc, je me suis naturellement dirigé vers Billy Breloc.
Vous avez eu plusieurs ateliers préparatoires, ils ont été nombreux et réguliers avant de vous emmener vers les demi-finales puis la finale. Ces ateliers, ils étaient souvent en huis clos, on avait du mal en tout cas à y rentrer nous avec notre micro. Qu'est-ce qui s'est passé dans les ateliers d'Ismaël et quels sont les conseils que vous pouvez retenir de ces ateliers ?
Dans un premier temps, lorsqu'on était encore sur la thématique du rapport au vivant, on avait commencé par décrire un peu l'éloquence, ce qu'était l'éloquence. Après, on a commencé à débattre un peu du sujet, l'analyser, parce que le rapport au vivant, c'est une thématique très très vague. Ensuite, on a commencé à préparer nos discours, on a fait de nombreux exercices. Je me souviens d'un exercice qui se faisait à deux. Donc, il y avait une personne devant qui parlait et qui racontait sa vie, qui parlait d'elle-même, et la personne derrière devait faire la gestuelle en même temps. Et je pense que cet exercice qui est bien, c'est que déjà la personne de devant, ça lui permet de parler et de prendre confiance, et la personne de derrière, ça lui permet de travailler la gestuelle. Et je pense que c'est très bien. Il y avait aussi un autre exercice, c'était pour maintenir le eye contact avec le public. C'était donc chacun se présenter, parler un peu de lui-même, de ses passions, etc. Et à chaque fois qu'il regardait une personne, ou bien que la personne pensait que la personne qui parlait la regardait dans les yeux, elle devait s'asseoir. Et donc le but, c'était que tout le monde s'assoie.
Oui, elle déterre. Moi, j'ai dit déterre. C'est bien son nom, elle déterre. Merci, je vous remercie. Il a su donner au groupe, au groupe comme à moi-même, c'est la sensation d'être à l'aise, la sensation que chacun était là avec ce qu'il était et qu'il n'y avait pas ni un défi de concurrence entre chacun, ni un but particulier à atteindre en dehors de celui de s'exprimer. Donc ça, j'ai trouvé ça, plutôt cool. Plutôt engageant, plutôt dynamisant, parce que il a permis à chacun de trouver sa place et de s'exprimer.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans ces ateliers de Billy Breloque ? On est curieux de le savoir.
Alors ça, c'était vraiment la partie la plus géniale de ce défi d'éloquence, et c'est là où j'encourage vraiment tout le monde à y participer. C'est vraiment ces ateliers qui permettent de travailler tous ensemble. Donc de partager différentes expériences avec les différents collègues avec qui nous étions. Donc nous étions une petite quarantaine au début, donc divisés en trois groupes. Donc on était à peu près entre 10 et 12 par groupe. Et l'idée, c'était vraiment de travailler ensemble, de progresser, de rédiger son texte aussi, de le faire relire et de l'interpréter avec la coach. Billy, ce qui était super avec Billy, c'est qu'elle avait une approche aussi très théâtrale. Donc elle nous faisait travailler sur des exercices d'improvisation de théâtre avant de commencer les cours. Et ça, c'était vraiment génial, puisque ça nous permettait un petit peu de se recentrer, de travailler aussi la posture, hein, puisque dans l'éloquence, il y a certes le texte, mais il y a aussi la façon dont on va le dire, le rythme, qui était très intéressant pour moi, du coup, d'un point de vue rap, que je ne connaissais pas beaucoup. On sait que le rap, c'est quand même beaucoup de rythme. Et voilà quelques petites choses qui se passaient dans ces petits ateliers.
Peut-être, alors je dis bien peut-être, parce que j'ai pas forcément la solution, peut-être parce qu'il a su dans sa manière de faire et sa manière de nous coacher de nous unir comme un groupe, comme une même identité, et il est vrai que à un moment donné on oubliait à la fois nos catégories socio-professionnelles, mais y compris l'âge, parce que moi j'ai sympathisé avec un jeune de 20 ans, j'ai pu sympathiser avec une dame de un peu plus âgée que moi, je ne sais pas de combien, peut-être que d'une année, j'en sais rien, mais elle est à la retraite alors que pas moi. Mais c'était cette idée de groupe qu'il a su créer et l'écoute qui a pu en dégager, même si ce groupe c'est un peu réduit au fil du temps, il a su garder cette cohésion dès le départ. Donc on n'était pas que des individus, et ça c'est bien.
Et justement, vous commenciez à nous parler de ces ateliers en disant que la première chose qu'on vous a demandé de faire, c'était de définir l'éloquence. Alors, quelle est votre définition de l'éloquence ?
Pour moi, l'éloquence, c'est l'art de parler, l'art de s'exprimer, de donner son opinion sur un sujet particulier.
L'éloquence, je le définirais personnellement comme l'art de bien parler et de parler beau, comme je disais. C'est-à-dire, c'est vraiment de manier les techniques oratoires, que ce soit des figures de style, que ce soit des façons d'exprimer les choses, que ce soit d'embarquer son auditoire, que ce soit aussi de pas nécessairement parler à la raison, mais plutôt au sentiment. donc de persuader, d'emporter les gens avec soi. C'est vraiment ça que je qualifierais d'éloquence.
Est-ce que, Safa, vous seriez d'accord pour dire que le premier ingrédient qui mène vers l'éloquence, c'est le fait d'oser ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec vous et ce que vous venez de dire. Parce que quand on parle d'éloquence, il s'agit de s'exprimer. Et pour s'exprimer, il faut un certain courage et donc oser. Parce que je sais que certaines personnes sont très timides dans le quotidien, elles n'osent pas forcément dire leurs pensées. Et je pense que c'est quelque chose de faux. Et le fait de participer à des concours d'éloquence ou des cours de théâtre, bah, ça permet de surmonter cette peur du jugement ou bien cette peur du public, tout simplement, et de dire ce qu'on a sur le cœur.
Telle était mon intention. J'avais besoin de cette confrontation à titre personnel. Donc ça, c'est pour Lancelot. Ou pour la radio, peu importe, mais oui, c'est, j'y ai retrouvé un plaisir que j'ai eu plus jeune, ça c'est certain, mais je m'y présentais d'une manière différente, je m'y présentais vraiment avec la volonté d'être juste Hassan et pas un personnage qu'on endosse quand on fait du théâtre et peu importe la forme de théâtre, mais voilà, elle était là, il était là mon défi.
Franchement, c'est super difficile d'oser. Moi, je m'en souviens lorsqu'on, j'avais vu l'article donc dans Nanterre Info, ça m'avait beaucoup trotté. J'avais vraiment envie de le faire, mais c'est vrai que se dire ah là là, faut quand même. Il y a plusieurs mercredis où il fallait être disponible à 18h, 22h. Bon, ça c'est déjà une contrainte disons logistique, mais après il y a aussi est-ce que je vais être capable, est-ce que les autres vont pas me juger, est-ce que en disant des choses personnelles, les gens vont pas se moquer de moi, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette dynamique, dimension en tout cas d'oser faire quelque chose. Pour être honnête, je le regrette pas du tout. C'était une super expérience que je recommanderais à tous. D'ailleurs, j'hésite même, à titre personnel, à le refaire l'année prochaine. Je sais pas si c'est possible. Je crois que c'est possible parce qu'un finaliste l'avait fait, donc ça doit être possible. Donc effectivement, c'est une très très belle expérience qu'il faut oser.
Ah, les petits secrets de coulisses. J'ai pris simplement la tête à ma femme. C'est-à-dire moi, j'ai travaillé de mon côté à la rédaction des textes. J'ai appris ces textes, je les ai répétés et appris de façon différente, c'est-à-dire à les dire très vite, à les dire très lentement, à les dire avec emphase, à les dire. Et après, elle m'a fait répéter. Et on faisait ça un peu tardivement le soir afin que ben je respecte une des contraintes des défis qui était le timing quoi. Il fallait que ça dure 1:30 et 3 minutes. J'ai pas de souci à vous dire que le deuxième texte au début il durait 6 minutes. Donc elle m'a permis de trouver le rythme sur certaines phrases, de supprimer une théâtralité dans ma gestuelle et d'arriver à être plus un orateur qu'un interprète d'un texte.
S'il fallait parler du défi d'éloquence de la ville de Nanterre, il lui donnait une caractéristique, une définition, en tout cas une particularité. Comment vous en parleriez ?
Alors, moi j'en parlerais comme quelque chose d'accessible à tous. C'est-à-dire, il n'y a pas cette frontière dont moi, comme d'autres, pourrais se poser, qu'il faut avoir un background important, c'est-à-dire une culture particulière, ou non, c'est chacun est venu avec ses mots, avec son identité, et ça, et c'était intergénérationnel, donc il y avait automatiquement une écoute bienveillante qui se mettait en place, et donc, d'où la richesse de cet événement, et j'espère que c'est un événement qui va perdurer, parce que c'est oui, ça permet entre autres de créer du lien alors que notre société nous amène un peu à se replier chacun dans sa génération, et j'en suis le premier à le faire parce qu'un peu dépassé par la technologie, le numérique, les envies qui restent les mêmes au travers des siècles et de notre histoire, mais c'est voilà, c'est briser des barrières. Ouais, je trouverais pas mieux.
Nos auditeurs le voient pas forcément, alors je le dis pour eux, mais ils ont pas la chance de voir ni votre réserve ni votre sourire. Est-ce qu'être réservé, est-ce que prendre les choses avec l'amusement qui est le vôtre, ont été des qualités pour faire de vous un demi-finaliste du défi d'éloquence?
Alors oui, tout à fait. Donc on a passé le cap de la demi-finale avec Billy. Donc j'étais le seul représentant de l'équipe de Billy, donc c'était un honneur et un privilège. Et le côté un petit peu réservé et sourire aussi, c'est vrai que ça peut être aussi une protection. Moi, je sais que j'utilise beaucoup le rire et le rire en tout cas, et peut-être l'autodérision et peut-être la dérision en général comme une arme aussi pour faire des pirouettes. Donc effectivement, c'est des éléments qui peuvent permettre, je pense, à titre personnel en tout cas, de rebondir dans certaines situations ou de faire des jeux de mots ou des petites blagues qui permettent de s'en sortir. Alors quelque chose qu'on faisait avec Billy avant de rentrer vraiment sur scène, mais là vraiment les cinq minutes avant, c'est vraiment de se déconnecter du texte, se déconnecter de tout ce qu'on avait fait auparavant, vraiment de se dire « Ok, là je vais être dans devant un auditoire, sur une scène, avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement mon texte, hein, qui l'ont encore jamais entendu, puisqu'il est dévoilé ici pour la première fois auprès de la majorité des auditeurs. » Et donc de faire ce vide, de faire ce blackout complet permet vraiment de se recentrer et de se dire « Ok, on va livrer un texte, il sera pas exactement tel qu'il a été conçu, puisque le fait d'être en direct, là pour le coup, fait qu'on va peut-être bafouiller sur un mot, on va changer un autre mot, mais l'important est pas là, c'est vraiment de transmettre l'émotion et de délivrer son texte dans les grandes lignes qu'on avait fixées au début, dans la thématique imposée.
Est-ce que l'éloquence, c'est quelque chose d'inné, ou est-ce qu'on peut l'acquérir, et est-ce qu'il y a des gens plus éloquents naturellement que d'autres ?
Je pense que oui, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui naturellement sont plus éloquents que d'autres, dans le sens où ils sont plus à l'aise lors de la prise de parole. Mais l'éloquence, c'est quelque chose qui se travaille. L'art de parler, c'est quelque chose qui se travaille, qui se perfectionne. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, on aura du mal, mais après, on finit par très bien s'en sortir, et c'est pareil pour l'éloquence. Je pense par exemple à l'école, et quand il faut présenter quelque chose devant toute la classe, que ce soit un exposé, un travail ou autre, dans ces cas-là, l'éloquence se travaille. Ou alors... par exemple, rien que lors de débats, par exemple, de temps en temps organisés par les professeurs, l'éloquence, c'est quelque chose qu'on pratique. On s'en rend pas forcément compte, mais on a besoin de l'éloquence dans la vie de tous les jours.
Alors, je travaille dans une petite boîte qui fait de la big data automobile, donc effectivement un milieu d'ingénierie. Par contre, moi, pour ma part, je suis plutôt chef de projet, donc des projets majoritairement informatiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'orchestrer, de s'assurer que les différentes parties prenantes d'un projet travaillent ensemble, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les métiers, donc dans le véhicule d'occasion pour lequel je travaille, que ce soit les équipes finances, que ce soit les équipes, voilà, les différentes parties prenantes impactées dans le projet, s'assurer qu'elles parlent bien ensemble, qu'on s'assure que les projets avancent dans la même direction. Donc ça nécessite quand même pas mal de reformulation de ce qui a été dit en séance, de s'assurer de bien le retranscrire par écrit, de s'assurer qu'il y a un suivi, de s'assurer du planning. Et donc, ça nécessite effectivement des qualités. Hein, donc, ce qu'on dit généralement du chef de projet, c'est un chef d'orchestre. Donc, c'est vraiment un petit peu ça. Donc, c'est vrai que c'est une qualité de savoir naviguer comme ça parmi des profils qui peuvent être très différents, qui est très, très utile au quotidien.
Et dans ce contexte de gestion de projet, est-ce que l'éloquence est une arme qui permet d'arriver à ses fins?
Alors, disons qu'il y a la phrase, hein, la fin justifie les moyens. Je pense que dans un projet, normalement, on est plus s'assurer de bien diriger le projet pour aboutir à nos objectifs, hein, mais qui sont des objectifs partagés. Donc, l'idée, c'est pas de tromper ou de persuader ou d'amener des personnes à faire des choses qu'elles ne souhaiteraient pas faire, mais c'est de s'assurer constamment de coordonner les personnes et les activités pour atteindre l'objectif qu'on s'est tous fixé collectivement. Donc c'est une arme utile, mais c'est pas la seule arme. Derrière, faut quand même s'assurer de coordonner les gens. Faut que les gens aussi intègrent l'importance des sujets sur lesquels ils vont travailler, et ensuite d'aboutir au résultat escompté.
J'ai commencé dans une petite compagnie de MJC quand j'avais 15-16 ans. Je mens un peu. La première fois, c'était en colonie de vacances. Mais par la suite, j'ai voulu, après mon baccalauréat, faire du, je dirais même un peu plus tard, me lancer dans le théâtre, parce que c'était là où tout simplement je me sentais bien. Donc oui, j'ai travaillé en MJC, j'ai travaillé dans un cours de théâtre, j'ai travaillé sur scène, parce que on a créé une jeune compagnie, et ça m'a amené à lire, à énormément lire. Alors que, oui, je suis arrivé jusqu'en terminale sans forcément avoir lu autant. J'ai retrouvé, puisque même dans les ateliers qu'on a pu suivre, j'ai pu donner des conseils et des avis à d'autres participants, mais je m'y suis retrouvé avec un certain savoir-faire, mais avec la même grande timidité, un nœud au ventre, et surtout, que ce soit en demi-finale comme en finale, avec l'incertitude d'être reconnu dans cette éloquence-là. Certes, dans la construction du texte, j'ai fait un choix différent que des autres participants plus jeunes, puisque eux, ils ont été amenés à parler quelque chose de qui leur était proche. J'ai fait le choix de parler plutôt du sujet que de ma personne, parce que peut-être un peu plus compliqué.
Alors moi, j'aime beaucoup l'émotion de la scène. Alors avant le Covid, je faisais un peu de théâtre amateur. Ça m'avait beaucoup plu déjà pour jouer des personnages, jouer des rôles, jouer des émotions de personnages fictifs, mais écrits par des écrivains. Ce qui est très atypique dans l'éloquence, c'est que là, on est soit tout seul avec son texte mis à nu. Hein. L'idée, c'est vraiment de dévoiler quelque chose sur soi qui permet de captiver son auditoire. En tout cas, c'est comme ça que j'avais l'intention de livrer mon discours. Et donc, cette technique de prévisualisation, je la connaissais pas. J'avoue qu'on l'a travaillée justement avec ma coach. Et je trouve que c'est un instrument assez puissant, puisque ça permet de se mettre en situation de. Et du coup, lorsqu'on y est, en fait, j'ai l'impression que dans le cerveau, il se passe quelque chose, où c'est un peu plus simple, du coup, parce qu'on dit, bah, je l'ai déjà fait, puisque je l'ai déjà vu dans ma tête. Donc, c'est une super technique. Et j'avoue que ça, je l'utilise vraiment maintenant, tout le temps, lorsque j'ai des conversations difficiles. Je me mets dans cette posture et ça aide pas mal.
Alors, pour les demi-finales, on était tous les candidats installés. Les noms étaient tirés au sort au fur et à mesure. Et, plus les candidats passaient, plus le stress montait parce que j'étais face à des prestations incroyables. Je me disais, waouh, le niveau est élevé. Est-ce que j'arriverai à faire aussi bien? Est-ce que ce que j'ai préparé était bien? Et du coup, quand on m'a appelée pour monter sur scène, j'étais plutôt confiante, mais stressée à la fois, parce que il y avait un public très nombreux, c'était assez imposant quand même. Mais après, à partir du moment où j'ai commencé à parler, à un moment, j'ai oublié que j'avais un public devant moi, j'avais l'impression de parler pour moi-même.
Parlons peu, parlons texte. Vous avez dû livrer deux textes en présence du public, un premier lors des demi-finales, qui était autour du rapport au vivant, et un second qui était plutôt autour du futur et qui tenait lieu de texte de finale. Quelle était la teneur de votre texte au rapport au vivant ?
Moi, je me suis emparé de la thématique portée par ce défi qui était sur l'environnement, et le sujet était notre rapport au vivant. Donc, j'ai pris un parti pris que le vivant, à un moment donné, il s'arrête. Alors certes, on l'entend dans la bande-annonce de ce podcast, ma jeunesse a été nourrie par des personnes comme Raymond Devos, donc les mots pour moi, ça a été quelque chose qui ont pris une place de plus en plus importante dans mon existence, dans mon travail, dans mon quotidien. Qui fait que il y a parfois je sens même en décalage entre comment je parle et d'où je viens, mais c'était la volonté de pour le relier au sujet proposé de cette du côté éphémère du vivant, et que ça nous obligeait, ça nous responsabilisait à y faire attention, que ce soit notre vivant ou le vivant des autres, voire de la planète sur laquelle on est. Donc oui, c'était quelque chose qui m'a fait plaisir, porté par le coach qu'on avait, c'est qu'à un moment donné, il y a un tic-tac qui était sorti à base d'improvisation, parce qu'au début, LDTR me proposait de plutôt être dans l'impro. Donc j'ai fait des impros, mais qui lâchaient trop de l'émotion, et en travaillant de cette manière-là sur le texte et sur le sujet, ça m'avait permis d'être au service des mots et pas de mes émotions, et ça c'était plus intéressant pour moi.
Alors j'avais commencé par une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, qui disait que vivre est la chose la plus rare, la plupart des gens se contentent d'exister. Dans un deuxième temps, j'ai parlé de l'égoïsme de l'être humain et à quel point il est devenu égoïste. J'ai ensuite fait le rapprochement avec le changement climatique et le fait que non seulement l'être humain se détruisait lui-même, mais qu'il détruisait aussi l'environnement dans lequel il vivait, cet environnement vital dont il a besoin pour pouvoir s'épanouir. Et j'ai aussi fait le rapprochement avec une certaine soif de pouvoir, d'argent et d'influence. Et j'ai dit que bah, tout ça détruisait l'humanité et qu'on en était arrivé à un point où, pour de l'argent, l'être humain serait prêt à faire tout et n'importe quoi.
Alors, sur le rapport au vivant, c'était intéressant, parce qu'évidemment, dans cet exercice de préparation du texte, on fait beaucoup de brouillons, de réécriture, on revoit avec la coach. Donc moi, je l'ai fait en plusieurs reprises, mais une chose qui s'est imposée assez rapidement, c'est que j'ai eu un enfant donc en décembre dernier, le 18, Elio. Et donc du coup, je m'en suis un petit peu servi, je me suis un peu servi d'Elio pour être la matière première de mon texte sur le rapport au vivant, puisque je pense toujours que la paternité est un élément assez fondateur dans ma vie. En tout cas, ça a beaucoup contribué à beaucoup de choses là dernièrement, dans les 6 derniers mois. Et je trouvais que la thématique rentrait bien là-dedans, puisque c'est un rapport au vivant qu'on propose au monde avec l'éducation de son enfant, avec le travail qu'on accomplit avec son enfant, avec ce qu'on va faire de son enfant, avec les valeurs qu'on veut lui inculquer. Et donc voilà, c'était un texte d'une minute trente autour d'Elio. J'ai eu la chance aussi, lors de la séance de restitution du texte, donc ça se passait à la maison Daniel Ferry, d'avoir aussi ma conjointe qui est venue avec Elio du coup. Donc, ça a aussi un petit peu ému la foule, donc ça m'a permis peut-être de gagner des fois par ici. Mais en tout cas, oui, le texte sur le rapport au vivant, vraiment autour de mon fils et du rapport, en tout cas, que moi je voulais lui inculquer à l'Aziz.
La transition est toute faite. En parlant de futur, qu'avez-vous choisi de défendre dans la finale du défi d'éloquence autour du futur?
Alors le futur, c'était aussi une autre thématique intéressante. Alors moi, je voulais vraiment parler de choses personnelles, hein, puisque je pensais que dans l'éloquence, il y avait cet aspect de persuader, donc d'embarquer l'auditoire avec soi, donc de raconter des choses un petit peu personnelles, mais qui sont suffisamment universelles pour rassembler les cœurs et les âmes. Donc du coup, pour le rapport au futur, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais parlé de mes parents, donc qui viennent de Turquie, hein, qui sont venus du Kurdistan turc dans les années 80, qui sont installés en France à ce moment-là, et donc qui cherchaient beaucoup de choses en France, mais notamment apporter un futur plus heureux à leurs enfants, donc moi et mon frère et moi. Donc voilà, je l'ai plutôt axé sur cet aspect-là, donc plutôt sur finalement mon passé, mais pour parler du futur que mes parents voulaient créer, du futur qu'ils ont réussi à créer, et du futur que moi-même, je veux créer. Et j'avais refait une pirouette et une boucle avec Elio, justement, pour parler que le futur que les parents avaient créé serait le futur que moi, j'allais continuer à créer, que chaque génération apportait sa pierre à l'édifice de l'humanité.
Pour moi, le futur, comme je l'ai dit dans mon exposé, c'est pas le futur qui est dans 10 ans, dans 20 ans, c'est le futur proche qui est juste là, le lendemain. Moi, j'aime pas trop penser au futur, je préfère vivre au jour le jour. Et comme je l'ai dit encore une fois lors de mon passage, le futur, c'est quelque chose qui se planifie, certes, mais il faut pas devenir obsédé par le futur. Il faut vivre l'instant présent, en profiter, faire des choses, parce que l'instant présent restera dans l'instant présent et il ne se reproduira jamais deux fois.
Alors, selon moi, je pensais pas le gagner. Ça, c'est de façon très certaine, pour plein de raisons. Ce qui m'a permis de le gagner, à mon avis, c'est que, grâce aussi à ma petite, à ma femme, hein, ça c'est mon côté Colombo, comment j'ai su porter le texte, ça a été ce que les gens surtout ont perçu, ont entendu. Et alors certes, le texte a un certain fond qui j'espère est partagé par le plus grand nombre, mais c'est vraiment pour moi la perception des personnes qui étaient à la fois spectateurs comme faisant partie du jury, parce que quant à moi, et le fait du hasard de la demi-finale comme de la finale, j'ai été appelé le dernier, donc jusqu'au dernier moment j'étais pas sûr d'être retenu malgré l'avis très très enthousiaste d'Eldéter qui me disait mais tu vas gagner, tu fais partie des gagnants, de participants qui faisaient partie du groupe. Mais voilà, moi ça a été une vraie surprise, donc un vrai cadeau.
Et justement, ce texte, vous l'avez amené aujourd'hui, vous l'avez sous les yeux, vous nous en liriez un bout ou tout? Ça, c'est vous qui choisissez.
On est toujours sur la demi-finale.
On est sur la finale.
Ah, qui est un peu plus long.
Qui est un peu plus long. On a le temps.
Alors, est-ce que je serais capable de vous le refaire comme je l'ai fait sur scène, puisqu'il y avait cette pression des 3 minutes?
On a aussi, je crois, le passage sur scène, si vous l'aviez dit dans le micro.
Non.
Non, alors tant mieux, faites-le maintenant.
Non,
c'est votre heure de gloire.
C'était heure de gloire. Donc bonsoir, futur. Je suis bien dans le futur, dans mon futur. Un futur où je suis heureux d'être. Je l'ai rêvé, travaillé, je vous assure, j'en ai usé du papier avant de passer au clavier de mon ordinateur. Oups, que de papier gâché. Allez, c'est déjà du passé. Maintenant, je suis là devant vous, content de l'être et ému. Quel futur. D'accord, je sais bien, c'est un futur à court terme, mais quel présent. C'est un cadeau et une histoire de temps. Prenons un instant pour rassembler tous ces éléments. Mon futur, c'est maintenant. Je suis là pour parler du futur au présent sans que cela soit une perte de temps et que cela ne dure trop longtemps. L'instant est passé. C'est celui d'après, c'est-à-dire maintenant qui est mon présent, qui deviendra mon passé lorsque le futur de l'instant d'après sera, à son tour, devenu mon présent. Est-ce que je sais pour autant ce qui va se passer ? Réfléchir à court terme est impossible, même si cela peut paraître amusant. L'IA s'en sort bien mieux que moi. Repassons à l'instant où je vous parlais du futur, de notre futur, celui de mes enfants, des vôtres également, des vôtres, oui, ne vous inquiétez pas, ils en auront droit aussi. Il y a notre futur et celui de chacun. Le futur est multiple, alors même qu'il semble unique. Il peut être magnifique, il peut être inique, tragique. Souffle un vent de panique. Que de rêves, d'espoir, gardons-nous dans notre mémoire. Que de rêves réalisés ont fait avancer nos sociétés, notre humanité. Que de rêves brisés par nos peurs, nos choix et nos erreurs. À quel moment cela peut s'arrêter? À quel moment allons-nous nous arrêter? Que d'hommes, de femmes, d'enfants ont été exploités, maltraités, sacrifiés, transformés en véritables guerriers, en vils meurtriers, en treillis ou costumes de couturiers pour édifier nos sociétés. Que d'hommes, de femmes, d'enfants ont combattu pour la liberté, l'égalité et la fraternité, sauvant notre humanité au-delà de la simple idée. Ils ont construit notre présent et passé le relais. Et au fil du temps des moissons, du fruit de nos efforts, sacrifices et passions, le relais s'est fait course, course effrénée, oubliant les leçons du passé, toujours plus vite, toujours plus loin, plus haut, vers l'au-delà et l'infini, laissant derrière les démunis. Esprit de découverte, de conquête et d'exploitation, parfois aveugle ou sans raison, et là, je ne parle que de nous, que de vous, les êtres humains, les êtres vivants parmi le vivant et sur la terre. La terre qui arrivait la première partira bien la dernière, ou ce sera en même temps un explosif adieu galactique. À quel futur faut-il prêter son attention, ses intentions, ses actes et ses passions? A-t-on seulement le temps de se poser la question? Le temps, en voilà une question. Le futur serait une question de temps, de temporalité, d'une frise qui brusquement se déchirerait, la main de notre destinée, de nos choix savamment décidés? Et de combien de temps parlons-nous? Combien de temps faut-il attendre pour que chacun d'entre nous, ensemble, s'occupe du futur, de son futur? Le futur, c'est quand? Dans 100 ans? En 2030? Demain? Là? Maintenant? À la fin, il n'y en aura plus qu'un. Tic-tac. J'espère que ça vous a plu.
Moi, je vois les yeux amusés et éclairés de Lancelot. Je sens les miens heureux et émus. Je me dis que c'est mon mot de la fin et je vous demande à vous, quel est le vôtre?
Merci à vous. Merci de me permettre de croire un peu plus en moi. Et ça, c'est un très beau cadeau.
Merci à vous. C'est très, très, très beau.
Merci. Merci à vous.
Parler Nanterre, un podcast pour tous les bons parleurs et ceux qui souhaitent le devenir.